Communauté de communes du Savès 32, une terre, un avenir.
Donc je viens d'une famille d'agriculteurs de l'Allemagne, près de Stuttgart. Et mon père a acheté une exploitation agricole ici, ou l'exploitation agricole, domaine de Villeneuve, en 1981. Et ça, c'était suite à une expropriation à Stuttgart. Donc il était obligé de vendre des terres près de l'aéroport de Stuttgart. Et comme il est agriculteur et attaché à la terre, il a racheté des terres agricoles en France, ici à Bézérine.
À la découverte de nos villages, Bézéril. Traversé par la départementale 4 qui relie Gimont à Saint-Matan, Bézéril est devenu en l'espace d'un peu plus de 20 ans la capitale européenne du pop-corn. Cette notoriété n'empêche cependant pas cette commune de demeurer un endroit paisible planté en beau milieu des champs. Carte d'identité du village par son maire Christian Daignan.
C'est une commune qui compte, au dernier recensement qui est tout frais puisqu'il a été fait au mois de février dernier, 127 habitants et qui compte une surface de 950 hectares. Au niveau évolution démographique, sur les 15 dernières années, on a connu une évolution de l'ordre de 25%, puisqu'on était moins de 100 habitants. On était que 9 conseillers municipaux dans la dernière mandature, on est passé à 11. C'est une évolution démographique qui est due surtout à l'arrivée de jeunes couples qui se sont installés, qui ont bâti sur la commune. La plupart d'entre eux ne travaillent pas localement, une grande majorité travaille chez l'avionneur bien connu de la région. Après nous avons des professions libérales, on a deux docteurs sur la commune, après des enseignants, enfin voilà. Et l'activité économique majeure de la commune reste l'agriculture, uniquement axée sur les céréales, puisque nous n'avons plus d'éleveurs sur la commune. Et malheureusement, là, avec un nombre d'agriculteurs qui tend à se raréfier, parce que nous comptons actuellement 5 agriculteurs sur la commune. Et malheureusement, avec une perspective pas très optimiste quant à l'évolution de ce chiffre-là, puisque bon, les jeunes ne sont pas très attirés par ce métier, quoi. Nous avons la chance d'avoir sur notre commune, comme tout le monde le sait, l'entreprise Nataïs, qui est spécialisée dans le pop-corn et qui emploie 130 salariés. Donc je fais souvent le parallèle entre les salariés de Nataïs et la population de la commune, puisque, comme je dis souvent, nous doublons notre population tous les jours. Bon, mais le soir, elle se raréfie, elle retombe à 127 habitants. C'est l'entreprise phare de la région et nous essayons de mettre tous les atouts de leur côté pour qu'ils continuent leur développement. Le dernier en date concerne la voirie, avec l'appui évidemment de la communauté des communes, puisque c'est elle qui a la compétence voirie, mais à laquelle la commune de Bézéril a tenu à s'associer au niveau du financement. J'oserais dire que c'est presque une autoroute, puisque les travaux sont sur le point de se terminer. Une voirie magnifique. Et je n'ai qu'une crainte, c'est qu'après les trous qui limitaient la vitesse, j'ai peur qu'il ne faille à terme faire des bosses pour la limiter à nouveau, puisque là, on est vraiment sur un tapis magnifique, quoi. Enfin, j'espère que cette voirie contribuera à l'essor permanent et constant de cette société, qui emploie ne serait-ce que par le nombre de salariés, qui est intéressante de ce côté-là, puisque malheureusement sur notre territoire, c'est la seule et la plus importante.
Voilà, donc au début, sur l'exploitation, c'était une exploitation polyculture.
Michael Henman.
Et à un moment donné, j'ai eu l'idée des diversifications. Donc, on a mis en place un essai de cultiver du maïs à éclater. Et donc ça a bien fonctionné. Donc première année, j'ai trouvé donc ensuite un client qui était intéressé, un client en Allemagne qui était intéressé d'acheter du maïs à éclater produit en France. Et c'est comme ça l'aventure a commencé. Donc c'était vraiment une diversification sur l'exploitation agricole au début. Et ensuite, bon, on a trouvé un premier client, on a trouvé, donc j'ai trouvé un deuxième, un troisième client. Et après, ensuite, j'ai demandé donc des voisins agriculteurs de produire pour nous. Et en 94, donc après une création d'une société commerciale pour gérer toute cette partie achat-vente pop-corn vers l'export. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
Avant de construire cette usine, les premiers pas, vous les avez effectués dans votre ferme? Vous aviez des locaux dédiés au popcorn?
Les débuts, c'était dans une ancienne ferme sur de la domaine de Villeneuve, donc dans les bâtiments qui existaient mais qui étaient vides. Et c'est là où on a commencé à installer les premiers stockages pour le popcorn, les premiers séchages et un triage avec un ensachage dans des bâtiments, dans des anciens bâtiments de ferme. Donc, dans un premier temps, on a donc cultivé le maïs à éclater et on a vendu en vrac pour des cinémas ou des distributeurs cinémas ou les industriels. Et en 97, nous avons commandé et acheté une machine aux États-Unis pour conditionner du popcorn pour les micro-ondes, donc popcorn micro-ondable. Et c'était les débuts de cette production qui prend aujourd'hui, qui fait aujourd'hui 2/3 de notre chiffre d'affaires.
22 ans après le début de l'aventure, la Thaïs a grandi, la Thaïs a conquis des parts sur les marchés mondiaux. Vous êtes devenu un leader mondial, au moins, du moins français et européen. C'est pour vous, je suppose que vous êtes très fier de cette réussite, mais dites-nous, comment l'expliquez-vous?
Comment je l'explique? Premièrement, on était le premier en Europe qui cultivait maïs à éclater produit sur le sol européen. Donc on était vraiment un peu pionnier, ça explique un peu l'intérêt pour notre maïs à éclater. Deuxièmement, je l'explique aussi par une équipe, aussi bien une équipe agriculteur qu'une équipe des personnes qui travaillent avec moi, qui étaient motivées et fascinées par une mise en place d'une filière de maïs à éclater en Europe. Donc on a en permanence travaillé sur l'amélioration de la qualité et la satisfaction des clients, et c'est ça qui explique notre succès sur le marché.
Aujourd'hui, de Thaïs, cela représente combien de salariés, quel chiffre d'affaires et avec qui travaillez-vous?
Aujourd'hui, la Thaïs représente 130 salariés. On travaille ensemble avec 220 agriculteurs, donc 20 agriculteurs en agriculture bio. Et on fait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Donc avec qui on travaille aujourd'hui? On travaille 90% en export. On travaille tout d'abord pour le maïs vrac qui est notre première gamme de produits. On travaille donc avec les distributeurs de cinéma et avec les industriels à travers toute l'Europe. Et après, pour le popcorn micro-ondable, on fabrique donc différentes marques. Après, on fabrique énormément de marques pour l'étranger, pour toute l'Europe, mais aussi pour le grand export. On a commencé il y a 3 ans à vendre en Asie et aussi en Afrique du Nord et Moyen-Orient.
Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que la Thaïs est amenée à se développer, à élargir ses locaux au sein de Bézéril ou envisage-t-elle de créer d'autres unités ailleurs, en France ou dans le monde?
Donc la Thaïs est bien installée à Bézéril et le Bézéril c'est le capital du popcorn en Europe et ça va rester aussi comme ça. Après, peut-être un jour on aura d'autres activités ailleurs, mais notre principal siège va rester à Bézéril. Donc comment on voit l'avenir pour Nathalie? C'est un marché qui reste en croissance, donc plus modéré que dans le passé, mais nous sommes toujours en croissance. Donc on veut vraiment consolider notre leadership en Europe et rester leader européen de maïs à éclater. Donc on a encore beaucoup de choses à faire et l'avenir n'est pas rose, mais nous sommes raisonnablement optimistes pour l'avenir. We'll be right back.
Parlons un peu du comité des fêtes et des différentes animations dans ce village. Que trouve-t-on ?
Bon, nous avons un comité des fêtes qui organise notamment les fêtes locales qui ont lieu, puisqu'il y en a deux. C'est une au mois de juin, qui vient de se passer, et une autre fin octobre. Bon, c'est un comité des fêtes qui est assez dynamique, qui organise souvent des soirées à thème, comme bon, je parlerai à Saint-Patrick, ça me fera sourire quelques-uns qui ont participé récemment. Bon, la dernière soirée était aussi la soirée à thème sous le thème de l'Espagne. Enfin, voilà. Et après, bon, nous avons comme association une société de chasse qui est très dynamique aussi, mais qui est en partenariat avec, enfin, qui regroupe aussi les communes Saint-André et de Loas. C'est une société de chasse très ancienne qui fonctionne très bien. Heureusement qu'on l'a déjà, et il faut aider et protéger les chasseurs, je pense. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique ni dans le débat. Voilà, après, bon, c'est tout au niveau des associations. Bon, nous ne sommes pas très riches puisque bon, c'est les deux seuls qui assurent la commune, quoi.
Ça fait 2 ans que j'ai repris le comité de fête moi-même avec une bande de copains.
Philippe Layel.
On est une quinzaine de jeunes de 30-40 ans et on fait 3 animations dans l'année, donc la fête de la bière, la fête du village au mois de juin et on va faire cette année au mois d'octobre la Colombelle. Voilà. Donc la plus grosse fête, c'est la Saint-Patrick, pour la fête de la bière, où on se retrouve en gros avec 150 personnes, on fait venir des groupes de 2-3 musiciens pour avoir quelque chose d'un peu plus personnel qu'une disco mobile et dans le but d'animer le village pour que tout le monde y trouve son compte, tout simplement. Voilà.
Alors, vous êtes originaire de Béziril. En quoi c'est important pour vous de vous impliquer dans le comité des fêtes ?
Mais pour moi, c'est un devoir. J'aimais bien que mes prédécesseurs fassent quelque chose pour animer le village, pour pas que ces petits villages meurent, on va dire, se meurent, et que tout le monde ait envie de venir à Béziril visiter notre commune et pourquoi pas s'installer, tout simplement.
Alors, si quelqu'un veut s'y installer, comment le convaincre de venir dans ce village ?
Bonne question, aucune idée. Là, mais je sais pas, que l'ambiance y est chaleureuse, que le petit village dynamique, et après, les paysages, quoi, la tranquillité, on va dire.
Vous-même, vous avez toujours habité ici, vous n'avez jamais voulu partir ?
J'ai tenté de partir sur Toulouse, au centre-ville, ça a duré 6 mois, parce que quand on est habitué à vivre à la campagne, ou à la tranquillité, d'avoir des voisins qui vous disent bonjour, pour moi c'est important, alors qu'à Toulouse c'est assez impersonnel, tout le monde se voit mais personne ne se dit bonjour, on s'ignore, et comme je suis quelqu'un de très avenant qui est vers les gens, qui aime discuter, pour moi c'était un devoir de revenir ici dans notre pays, quoi, tout simplement.
Alors, vous m'avez dit que le comité des fêtes, c'était 3 événements majeurs dans l'année. Est-ce que vous avez prévu d'en organiser d'autres par la suite ?
Non, organiser d'autres, on ne peut pas, parce qu'on est un effectif trop réduit. On a chacun aussi une activité professionnelle à côté. Donc, pour que tout le monde aille dans le même sens, au même moment, c'est assez compliqué. Donc, on préfère faire 3 événements bien structurés que plutôt en faire plusieurs et mal les faire. Voilà.
Mais je suppose que dans vos fêtes, il n'y a pas que des gens du village ?
Non, la majorité du village, on va dire, on a un tiers du village et le reste des alentours. On a toujours l'éternel problème des gens qui sont assez casaniers, on va dire, et pour les faire bouger, cela, c'est pas évident. Voilà.
C'est difficile de faire venir les nouveaux habitants au fait de la commune ?
Les nouveaux habitants, certains viennent au-devant, viennent demander justement s'ils peuvent intégrer le comité des fêtes ou sont curieux de venir voir les activités, donc ils viennent. Après, certains, oui, préfèrent rester plus en retrait.
Nous sommes arrivés au village de Béziril en août 2011.
Emmanuel Lima.
Nous sommes venus sur les conseils d'une amie qui habite pas très loin, qui était à l'école avec moi à Paris. Elle nous a fait visiter ce séchoir à tabac qui était en vente et nous avons eu un véritable coup de cœur. Et de plus, on souhaitait réellement quitter l'Ariège. Donc, le séchoir à tabac dans lequel nous sommes était destiné à une autre personne qui n'a pas pu venir. Et C'est avec un grand plaisir qu'on a pu faire les travaux dans le séchoir à tabac. Notre intégration a été assez facile. Je suis mère de 3 enfants. Ici au village, il y a de nombreux enfants, notamment des enfants du même âge que les miens. Ça a quand même beaucoup facilité notre venue ici et au sein du village, avec l'école pas très loin à Pollastron. La plupart des enfants vont dans cette école. Ensuite, les mamans ici, on est à peu près toutes du même âge. On se retrouve très très souvent ensemble. Ça, c'est vraiment très appréciable, surtout quand on est une nouvelle venue, d'être accueillie par un repas de voisins pour faire amplement connaissance. Et c'était vraiment très très agréable.
Comment le trouvez-vous, ce village ?
Je trouve qu'il est super bien situé entre Gimont et Saint-Matan, avec une petite préférence pour Saint-Matan. Je le trouve paisible, agréable. J'aime beaucoup la vue qui se dégage devant chez moi. Et si on va un peu plus loin, lorsqu'on fait des petites randonnées pédestres, on peut apercevoir les Pyrénées et c'est vraiment très reposant.
Vous ne le trouvez pas trop calme ?
Non, je le trouve. Je suis une ancienne parisienne, les bruits de voiture, je ne sais pas ce que je recherchais. Je cherchais vraiment la tranquillité, le chant du coq le matin, par exemple, les chiens qui aboient, ça ne me dérange pas. Et puis depuis peu, le tocsin de l'église, c'est encore plus appréciable. Someday we'll bring our love home. All lost sailors, out of luck and favors,
missing in the raging ocean. Alors, vous avez une salle des fêtes, donc c'est pratique pour le comité des fêtes, pour les associations, mais j'ai cru comprendre que vous alliez la rénover pour la mettre peut-être aux normes.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un projet très important pour notre commune, mais qui devrait se dérouler courant 2017, puisque nous sommes que dans les premières études, les premiers plans. Cette salle n'est pas du tout aux normes, que ce soit au niveau accessibilité, puisque nous avons donc cette obligation. Elle n'est pas non plus aux normes au niveau performance énergétique, puisque voilà, c'est une vraie passoire au niveau courant d'air et au niveau phonique. Enfin, tout est à revoir dans cette salle des fêtes. Quoi. Voilà.
D'autres aménagements prévus dans d'autres endroits ?
Oui, alors je n'allais pas faire parallèle à ce niveau-là, c'est tout à fait différent. C'est l'aménagement de notre cimetière qui est très ancien et où un bon nombre de concessions, malheureusement, ne sont plus entretenues, comme dans pas mal de cimetières de nos petits villages. Et nous avons entrepris la démarche de récupérer ces concessions de façon à restructurer ce cimetière, améliorer l'accessibilité et peut-être donner un peu plus d'humanité à ce...
Parlez-moi à présent du patrimoine. Que trouve-t-on dans ce village ?
Comme tous les gens qui ont pu traverser notre petit village, ce qu'on remarque le plus en le traversant, c'est pas forcément le village lui-même, mais c'est le château majestueux ainsi que la petite chapelle qui se trouve juste à côté. Le château appartient à un agriculteur. Et l'église, dont le patron est Saint-Jacques, je ne veux pas rentrer en compétition avec le village de Garavit, j'ironise en disant que nous aussi on a la statue de Saint-Jacques, mais nous, elle se résume au buste. Sûrement qu'on ne devait pas avoir assez d'argent à l'époque pour acheter la statue entière comme l'on fait Garavit. Mais voilà, c'est une ironie. Hein. Voilà. Et on a fait récemment l'aménagement du clocher, avec la réfection des cloches, l'électrification, enfin. Et l'aménagement de cette église avait été réalisé par mon prédécesseur, Georges Mallette, qui avait eu un vaste chantier à l'époque, je me rappelle, et notamment pas mal de mailles à partir avec l'architecte en place à l'époque des bâtiments de France. Bon, enfin, c'est une belle réussite quand même.
Alors là, nous sommes dans l'église de Béziril, qui s'appelle Saint-Jacques.
Saint-Jacques, oui, c'est l'église de Saint-Jacques de Béziril.
Marie-Thérèse Cassagne, alors est-elle encore ouverte au culte ?
Tout à fait, tout à fait. Nous avons une messe, disons, une fois par trimestre. D'ailleurs, elle a été restaurée et je pense qu'elle est quand même... Elle est très belle et tous ceux qui viennent la trouvent vraiment très accueillante. Puis c'est un petit format, donc on se sent un petit peu en famille, si on veut.
On m'a dit que vous aviez un buste de Saint-Jacques. On peut aller le voir ?
Alors nous l'avons ici, la chapelle. Il y a deux chapelles. Une chapelle dédiée à la Vierge, voilà, à notre gauche, et une chapelle dédiée à Saint-Jacques. Voilà, mais il n'y a que le buste. Voilà.
Alors, il est en or ?
Il est, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, non, non, non. Non, non.
Alors, le château, mes grands-parents l'ont acheté en 1954.
Christine Cassagne.
Et ils sont venus de Gaujac. Et à l'époque, enfin, l'histoire, enfin, ce que racontait mon grand-père, hein, parce qu'on passait des heures à la cheminée, là, à me raconter. Et ils sont venus donc, de Gaujac en 54. Ils ont déménagé le bétail, tout le bétail, à pied de Gaujac. Je pense que ça fait une vingtaine de kilomètres, je crois. Et voilà, c'était un sacré déménagement, quoi. Et ils sont arrivés ici dans une maison qui... Enfin, ils ont acheté d'abord le château. C'est pas le château qu'ils ont acheté. Ils ont acheté les terres d'abord. Parce qu'ils partaient de Gaujac pour une ferme qui pourrait accepter, on va dire, la mécanisation. Parce que mon grand-père, en fait, a fait la guerre de 14. Il s'est engagé. Et à l'époque, il s'est engagé, il était camionneur, enfin il était chauffeur. Et pour lui, c'était, il voyait que l'avenir de l'agriculture, c'était la mécanisation. Donc automatiquement, il s'est dit, mais à Gaujac, ça va être dur avec les tracteurs, il faut que je mette mon fils, mes fils, dans une ferme qui accepterait la mécanisation. Et alors il cherchait. Une ferme donc avec des terres voilà qui accepteraient ça et de l'eau parce qu'il s'était dit aussi il faut que peut-être je fasse un lac quelque part pour irriguer après et donc ça a été la principale recherche on va dire et ils ont trouvé cette ferme qui correspondait à ça et il y avait le château qui était dans un état de dégradation totale. Et mon grand-père me racontait que tous les matins, il partait, il regardait s'il n'y avait pas quelque chose qui s'était écroulé. Parce que c'était vraiment, vraiment dans un sale état. C'est vrai que nous, avec mon frère, par exemple, on va dire qu'on y est attaché parce que c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, même si c'est pas comme, on n'est pas dans une maison neuve, on n'est pas, les dernières peintures, elles ont été faites en 1957. Je veux dire, les tapisseries sont complètement défraîchies, mais voilà, le lieu, il est extraordinaire. J'ai un ami qui m'a dit un jour, il ne savait pas que j'habitais là, et il m'a dit, mais à chaque fois que je passais devant, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent être heureux, les gens qui habitent là? Et je me suis dit, mais oui, il a raison, bon, c'est la région, hein, c'est le Gers, c'est, je vais dire, c'est pas que Bézéril, mais, et c'est pas que le lieu ici, mais c'est, voilà, c'est enfin, pour nous les enfants qui n'avons pas vécu ce que mes parents et mes grands-parents ont connu, voilà, c'était plus facile, même si on n'était pas, dans les mêmes conditions que les autres.
Quelle anecdote gardez-vous, enfant, de ce château ?
On a cherché les oubliettes, par exemple. Alors, effectivement, on cherchait les oubliettes. Bon, on en avait un peu peur quand même. Hein, mais il y avait effectivement, il y a une petite pièce et il y avait des Hollandais qui étaient venus et ils avaient cherché à creuser pour voir s'il y avait un trésor ou des os ou quelque chose. Et c'est dans une tour, il y a une petite porte. Je ne suis pas sûre que c'est jamais servi.
Mais le patrimoine d'un village, c'est aussi une mémoire humaine, à l'image de celle de Robert Abadie. Parlez-moi un peu de ce village de Bézéril. Quand vous l'avez connu, je suppose qu'il y avait des commerces.
Oui, il y avait un café, un bureau de tabac, le téléphone, il fallait aller à la cabine. C'était pas comme maintenant, on a le téléphone dans la poche. Et puis, oui, c'était quand même, seulement ça s'est vite stoppé ce truc-là.
Il n'y avait pas d'autres commerces?
C'était, il y avait le café, dans le café, puis elle faisait également l'épicerie. Puis, parce que je sais pas, ici, de toute façon, à Vézéry, actuellement, il n'y a que 124 habitants.
Est-ce que vous avez des anecdotes à me raconter sur ce village? Est-ce qu'il y a des fêtes, des moments marquants?
C'était que lorsque j'étais jeune, là, on faisait la fête locale, donc. On avait les musiciens qui étaient en bordure de route, on dansait sur la route. Et puis l'après-midi, il y avait le lancer de ballon. Un petit ballon. On faisait. C'était pas comme maintenant, quoi. De toute façon, ça s'est vite arrêté, ce truc-là. Parce que. Puis il y avait le feu d'artifice aussi. On faisait un peu mais ça coûte cher. Et bien, la preuve que. Maintenant, tout est arrêté, quoi. Il y a un moment même.
Vous avez été conseiller municipal?
Oui, j'ai été conseiller municipal pendant 45 ans.
Et jamais maire?
Si, maire adjoint. 28 ans.
Oui, mais jamais premier édile. Et pourquoi?
Ah ben, parce que le maire qui où j'étais son deuxième adjoint, donc la place n'a jamais été libre. Enfin, je n'ai jamais voulu, moi. J'aurais pu peut-être être élu lorsque le maire a quitté. Donc j'étais son successeur, mais j'ai pas voulu, j'aime pas ça, je le faisais pour rendre service un peu, mais sinon c'était pas mon dada.
Comment voyez-vous l'avenir de votre village?
Je pense que, au niveau agricole, j'ai de grosses craintes, enfin bon, les terres sont toujours exploitées sûrement, mais le nombre d'agriculteurs diminuant, j'ai de grosses craintes à ce niveau-là. Après, il est certain que toutes les habitations seront occupées par des gens qui travailleront à l'extérieur, forcément. Je pense qu'au niveau démographique, sûrement ça va continuer à évoluer, mais pas d'une façon exponentielle, c'est certain.
C'était, dans la série Nos Villages, Bézéril, une émission pour la communauté de communes du Savès 32, produite et réalisée par Nicolas Héry, avec, par ordre d'apparition, Michael Heinemann, Christian Daignan, Philippe Laïer, Emmanuel Lima, Marie-Thérèse Cassagne, Christine Cassagne et Robert Abadi. Merci au maire Christian Daignan et à son conseil municipal.